je ne vais pas vraiment parler de l'œuvre de Jean-Marc Lové, on va l'écouter, ce sera infiniment plus beau. Je veux juste vous dire que, comme vous le savez tous, Jean-Marc Lové est né ici en Valais, à Sion, en 1948, et entouré, et là je le cite, de ces montagnes surplombant tous les moments de mon enfance, jusqu'à ce que je me décide à grimper sur la plus belle, qui ont toujours eu une influence glaciale et brûlante sur la littérature suisse. Ça, c'est dans la conférence de Stockholm. Comme vous le savez tous aussi, Lové quitte brusquement l'école à l'âge de 16 ans. Il s'en va photographier, voyager, travailler. Bouvier le décrit comme un poète adolescent qui cherche, comme autrefois Gorki, ses universités sur les routes. La Turquie, l'Afghanistan, une correspondance avec Maurice Chapa, un encouragement très fort de Corinne Aby, et Jean-Marc Lové se lance dans l'écriture romanesque et envoie son premier roman d'une boîte postale du Valais et apparaît chez Gallimard, les régions céréalières. Aujourd'hui, à mon avis, mais je ne suis pas la seule, on peut dire que Jean-Marc Lové est un des grands visionnaires de la littérature contemporaine. Ses récits nous entraînent dans le futur, et ce futur, en fait, il se trouve déjà un peu à portée de notre main et à portée de notre oreille. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette œuvre, c'est que elle vous fait voir les mots d'une façon différente. Ils prennent une force exceptionnelle. Tous les critiques le disent, comme ils le disent mieux que moi. Je vais vous citer Charles Mella, qui est directeur de la Bodmeriana et qui a été doyen de la faculté des lettres à Genève. Voilà un extrait de ce qu'il écrit sur l'œuvre. L'écriture de Jean-Marc Lové fait exister un univers mental hanté par la folie, peut-être pour ça qu'il y a peu de monde, hein. Un monde de machination fantastique et d'angoisse obsédante dont l'exploration est conduite avec rigueur, humour et dans une cohérence angoissante. C'est une œuvre qui bouleverse nos repères, qui brise les frontières, les catégories mentales, qui trouble notre regard sur les choses en faisant que le plus familier nous regarde toujours plus étrangement. Et pour finir cette toute petite introduction, je veux vous citer une phrase de Lové, dite récemment à la réception d'un prix. Je tiens à remercier ma première maîtresse d'école, en Valais, Madame Hubert, qui m'a appris à lire le syllabaire dans le texte et qui maintenant sûrement apprend à lire aux anges. Quand les anges sauront lire entre les lignes, ils n'auront plus besoin d'ailes pour s'envoler.
Oui, j'entends ça. J'ai juste envie de dire, parce que finalement ça me paraît pas mal, ma première rencontre avec Jean-Marc, c'est assez marrant. J'avais 18 ans et il avait 21 ans, et j'étais à Fribourg, parce que je jouais une pièce là, je commençais d'être comédien. Et un matin, c'était vers 10 h le matin, j'étais à Fribourg. Je sais pas si vous connaissez Fribourg. Dans la vieille ville, il y a la rue du Stalden, qui est une rue très en pente, comme ça. Et j'étais en bas, on m'a logé là en bas la rue. Et je monte la rue du Stalden, et il y a un type qui arrive, il s'arrête à peu près 50 mètres de moi, mais en hauteur, moi j'étais en bas. Puis on se regarde, on s'arrête tous les deux, et on se regarde, et on s'était jamais vu. Et ça faisait un truc comme ça, le mec là-haut, puis que ça, vraiment. Puis on sort les revolvers, comme ça, et on se tire dessus et on tombe tous les deux. Et après, on se relève et on est allé au Café du Soleil boire des coups de blanc. Et on s'est présenté et on avait entendu parler l'un de l'autre par un journaliste de la radio. Alors, on s'était jamais vu. Et depuis, on est devenu très amis, voilà. J'avais même lu son premier roman, Polenta, qui était édité en troisième chez Gallimard, donc c'est les régions salariales. Bien avant qu'il ait édité rien du tout, je ne sais même pas si La Tentation de l'Orient était déjà édité. J'avais lu en manuscrit. Une femme voulait faire un film, Maya Simon, qui est la petite fille de Michel Simon, cherchait, me demandait de lui écrire un scénario. Je commençais à écrire un peu des pièces de théâtre. Et ça m'embêtait d'écrire pour le cinéma, ça m'amusait pas du tout. Mais je lui avais dit, je viens de lire un truc formidable, je te présente l'auteur. Et alors je lui ai présenté Jean-Marc Lovet. Et elle a tourné un film avec Polenta, dans lequel Jean-Marc apparaît au moins 25 secondes, un moment dans le fond. Et c'est un très beau film avec Bruno Ganz et Jean-Marc Stélé, un film qui dure la version totale 3 h 30, qui a passé à Paris au cinéma Saint-André-des-Arts, comme on appelle ça, Arrêt Essai. Hein. Bon, il a un bon film que très peu de gens ont vu. Alors je suis ravi de lire, évidemment, de lire le début, ce sera le début de son dernier roman. Mais que j'ai des problèmes de voix, alors je suis saute de la sauge. Alors, en me réveillant pour m'évader du rêve, où des ruisseaux d'oiseaux morts coulaient vers la rivière qui descendait au fleuve des fièvres, je me retrouvais à l'intérieur du matin de mon anniversaire, qui était la cage aux espaces immenses séparant les barreaux entre lesquels je voulais m'envoler. Et voyant au loin s'élever le mirage des âmes de toutes les bêtes qui, ce soir, seraient sacrifiées dans les flammes de bûchers arrogants et fétides, je me souvenais de Krapotz, celui qui, du temps de sa jeunesse et de la mienne, était le plus habile divinateur du dernier pleur parmi tous les autres précoces férus en sanglots, et qui avait déjà le visage d'un faux pleureur, quand il me disait que le jour où, par bonheur pour moi et surtout pour lui, je croirais qu'il n'y avait enfin plus un seul être humain pour penser à mon anniversaire, alors je pourrais aller avec les chiens sous l'arbre. Et Krapotz disait qu'en leur tirant les queues et frottant le bâton contre l'écorce en épousant le cristallin diapason avec eux, je ferai couiner et sarquer la gamme jusqu'à son oreille perpétuellement attentive au malheur d'autrui, la plus pure et la plus sincère de ses oreilles, à lui, Krapotz, qui depuis toujours voulait être élu en tant qu'officiel et costaud écouteur qui ne dormirait plus jamais, le pur sans sommeil, l'éveillé chef conseilleur en méthode de suicide réussi, et le sombre empêcheur de suicide raté, parce qu'avant même de pouvoir comprendre ce que signifiait l'alignement des mots « Encore une journée perdue pour les perdants », il avait déjà compris que le meilleur apprenti pleureur final ne pouvait qu'être celui qui serait le plus capable d'apprendre à se retenir de pleurer, quand, dans le regard de celui qui viendrait le lui demander, il devinerait l'instant où il devrait mourir. Et ce matin-là, le chiffre d'un autre merveilleux jour de mon anniversaire tombait du calendrier géant qui flottait au-dessous d'un unique nuage, pendant qu'appuyé au tronc du frêne foudroyé, j'essayais de penser à ce que voyait le moustique qui nageait sur l'eau de la fontaine, observant par en dessous les deux veilleuses de chiens, juchées sur les murets pour faire de l'ombre à 12 chiots éblouis, et leur permettre de boire avec la serpentesque tétine collective dotée de 11 embouts une dernière fois, avant que la fontaine disparaisse. Et la meule de ténèbres ramassée en haut du chemin, dans son aspect d'avoir été entassé là par des balayeurs, s'avançait pour couvrir de nuit la lumière, en prenant d'abord les plus faibles mourantes lueurs et en les poussant vers une caisse à bétail vide qui ressemblait à un piège destiné à attirer le corps glacé d'un petit soleil refroidi, à tirer dans un trou un soleil mort et rapetissé, la réduction d'un soleil déjà presque réduit à une braise, et à l'enterrer exactement à l'instant que, dans l'infini aujourd'hui d'hier, parmi les formes de la fontaine vibrante dans une nuée limoneuse à travers laquelle je voyais de minuscules visages d'eau giclés d'un seau, très vite apparaissait et disparaissait et réapparaissait la fontaine cachée, celle de dessous, qui était la génitrice de celle de dessus. L'allaiteuse force originelle, la puissance de la fontaine lactée originaire, celle qui m'offrait à moi et à tout ce qu'il y avait de visible et d'invisible autour de moi, l'éphémère réalité d'une vraie fontaine. En soufflant dans des sifflets en forme de doigts en fer, dont la sonorité mettait en moi la certitude que toutes les bêtes seraient bientôt devenues aveugles, les veilleuses de chiens avertissaient les chiots buveurs que l'eau de la fontaine allait bientôt mourir. Mais elle tremblait, en semblant hésiter à les avertir que sa pierre ne tomberait pas en poussière avant la transformation de leur crâne en coffret de boue par les artistes œuvrant sous la terre. Arrivant encore à me souvenir qu'il y avait des années que le temps était venu où certains de ceux qui se souvenaient du jour de mon anniversaire s'étaient pendus dans une encoignure de leur propre mémoire et où j'en avais enfermé d'autres dans une geôle de ma mémoire, j'apercevais Crapote qui me faisait signe de monter vers lui en haut sur la terrasse devant les chambres d'animaux en voie de guérison finale. Et sautillant avec le rythme de l'incongru trop gigantesque mélancolique moineau, avant de ramper debout parce que j'étais alors soutenu par l'aimante solidité de l'air, je franchissais les remous des veilleuses qui tournoyaient en tirant les queues de deux grands chiens blancs éblouis venus tourner autour d'elle avec les gestes de vouloir déshabiller deux filles et endosser eux-mêmes leur robe. Entre les mouvements des chiens habiles qui, tour à tour, réussissaient à faire sortir une fille de sa robe et à remplacer très vite cette robe, soudain devenue rouge, par la blancheur des fourrures, je percevais la silhouette d'une âme qui me faisait signe d'oser avoir encore envie, autant que d'un mystérieux cadeau qu'on m'offrirait encore, d'emprunter à une des filles son sifflet de veilleuse de chien et d'inventer la mélodie d'une chanson intitulée « Bon anniversaire », en pensant que j'étais le chien étranger qui sifflait cet air inconnu, tout en connaissant le jour de la naissance de chacune des veilleuses et sachant que pas une seule d'entre elles n'était née à une époque où elle aurait pu se souvenir quel jour j'étais né, moi qui, parmi les jappements mélodieux encore prisonniers dans ma tête, osais demander à une étrangère de s'imaginer qu'aujourd'hui c'était son anniversaire et d'avoir la bonté de s'offrir une des chemises quasiment transparentes que je proposais sans jamais marchander, juste en échange de pouvoir regarder au moins une heure à travers, et en ayant la délicatesse de rester celui qui n'aboyait jamais quand il était repoussé à coups de bâton à travers les campagnes. Alors j'étais d'un coup tiré par la nuque, hors du tourbillon des belles veilleuses et des beaux chiens, et percevant de joyeux jappements qui s'éloignaient aussi tristement que des morceaux de chansons s'en allant vers l'oubli, j'étais presque traîné par saccades sur la rampe qui montait à la terrasse.
et ayant senti dans ma nuque les ondes des secousses imprimées par le poignet d'un voluptueux maître, je voyais les vibrations de la cordelette tendue et secouée par la grosse main gourmande de Krapotz pour me faire arriver contre ses genoux à l'instant où il s'accroupissait de façon à poser une joue contre ma tête en disant que c'était le bon moment de venir le voir. Et ce jour où il serait peut-être élu grand suicideur, lui qui, après une campagne électorale qui lui semblait durer depuis qu'il ne voyait plus dans quel monde il était né, avait tant besoin du soutien d'un ange dont le dernier espoir était le désespoir. Ayant pris et gardé ma langue dans sa main en comptant jusqu'à 57, et l'ayant relâché en disant que ma langue n'était pas seulement une langue à calcul, mais aussi une langue à regarder et une langue à toucher, Krapotz disait qu'il ne voulait pas savoir si j'avais vendu mes ailes ou si je les avais troquées contre deux vases contenant la racine d'une touffe de poils et la racine d'une fourrure, avec en prime un sachet du germe d'une future poignée de chevelure, car si dans ma catégorie j'étais le quatrième, ou peut-être le cinquième, des anges désespérés capables de se déplacer presque en même temps à quatre pattes et sur deux jambes, j'étais avant tous les autres anges, et surtout loin devant les anges dépités ou les anges satisfaits d'occuper un poste à l'intérieur d'un corps étranger, le premier sur la liste à pouvoir refuser de mordre et d'aboyer quand les circonstances m'obligeaient à habiter la forme d'un chien traité en sale chien d'étranger. D'une main mouillée, qui n'était pas encore le souvenir d'une main de bourreau trempée dans un baquet de larmes, Krapotz amenait ma tête entre les boules de chiffon matelassant sa poitrine. Et moi, je sentais qu'il voulait enfouir ma tête dessous son cœur, ou alors à la place d'un ventricule de son cœur, quand il disait combien son amour des bêtes comblait les trous laissés par les atroces morsures infligées au cours du plus authentique de tous ses plus charnus cauchemars. Quand lui, Krapotz, à l'époque où il n'était que le jouet de sa passion pour les nuits cauchemardesques, mais aurait tellement voulu être le plus obscurément célèbre arrangeur de conflits et le moins grossièrement subtil séparateur d'ennemis, il s'était revêtu du pelage arraché à la momie du loup, humilié devant le tunnel d'accès au centre animalier de la société philanthropique Amour des haineuses populations. Et s'étant alors glissé entre deux moments de confusion, séparant deux phases presque banales de ce qui était sûrement alors un de ses plus paisibles cauchemars, il s'était jeté dans ce qu'il croyait être le centre du cauchemar, où s'entre-déchiraient les enfants de drogue, éventreurs et renifleurs acharnés à convertir leur père en molosse militaire pacificateur. Ayant prolongé le mouvement de Krapotz et enfoncé mon front au plus profond des chiffons dans le creux d'une morsure, avec l'espoir que là-dessous se gonflait encore un poumon homologué comme organe humain en état de fonctionner, je lui disais que malgré lui et malgré moi, lui et moi voulions enfouir ma tête à moi tout au fond de son cœur à lui, pour nous interdire mutuellement tout jugement quant à l'authenticité ou à la fausseté des cicatrices de ses atroces morsures, et pour nous faire oublier que lui et moi ne pouvions plus croire au fatras de toutes les contre-vérités qu'il avait déversées pendant toutes les années de sa campagne électorale. Et Krapotz repoussait ma tête en disant qu'il n'avait pas la force, et encore moins l'envie, de hisser cette tête tout en haut vers l'air faussement pur des hauteurs, qui étaient mes hauteurs, mes propres hauteurs, desquelles je ne pourrais pas redescendre si facilement, et d'où je ne redescendrais peut-être jamais, car chacun de nous était gratifié de ses propres hauteurs, et ainsi condamné à fréquenter ses propres putrides hauteurs jusqu'à satiété, jusqu'à parfois tomber au fond du gouffre de sa plus hautaine hauteur. Soudainement debout, Krapotz me forçait à bouger en tirant sur la corde et me désignait la façade de la mignonne maisonnette empreinte de cruauté vivante, et continuant de vaciller dans le mouvement qu'il avait fait émerger du sol exactement à l'endroit d'où je venais d'être tiré. Et en essuyant une larme sous son œil gauche, pour montrer sa volonté de me prouver que s'il versait une larme, c'était seulement pour rien, et vraiment pour ne pleurer qu'une seule larme, Krapotz me désignait la façade de devant, qui portait l'inscription disant que c'était en toute sérénité, qu'ici même, et à la même heure du même jour, s'était volontairement éteint le dernier couple de lapins pestiférés. À ce moment, je devenais quelqu'un commençant à entendre Krapotz, qui très vite murmurait de voter Krapotz et encore une fois Krapotz et de voter toujours l'anti-crapule Krapotz, l'unique pleureur final qui saurait nous amener sereinement à nos fins jusqu'à la fin, comme s'il répétait la seule litanie dont il se souvenait depuis qu'il avait refusé de continuer d'apprendre à perfectionner sa fatalement éternelle même litanie, tout en paraissant avoir oublié que depuis toujours, il récitait chaque fois une nouvelle litanie. Et avec la sensation d'être moi-même une syllabe de cette litanie, qui, selon l'inclinaison d'une oreille de l'auditeur, pouvait parfois sonner aussi ancienne que résonner nouvelle, j'étais sûr que mon devoir était d'introduire ma tête et ma poitrine à travers l'unique fenêtre ouverte de la maisonnette des lapins prétendument suicidés, et d'aller saisir avec ma bouche l'affiche que Krapotz espérait depuis si longtemps contempler, et dont il avait toujours su qu'elle serait un jour dissimulée, à son intention et non à celle de quelqu'un d'autre, dans une des milliers de maisonnettes mortuaires qui n'avaient pu être construites d'une façon si cruellement mignonne qu'après la désapprobation des centaines de milliers d'animaux qui s'étaient sacrifiés en acceptant de s'exprimer par la voix des urnes. En repassant ma tête par la fenêtre, hors de la maisonnette, je sentais qu'il me faudrait un jour prochain briser mon ambition de consacrer le reste de ma vie à obtenir la suppression du droit de vote chez les animaux, et qu'il me fallait tout de suite lutter contre la force qui m'obligeait à serrer les mâchoires pour empêcher Krapotz d'appuyer de plus en plus fort avec un doigt sous mon menton afin de pouvoir prendre l'affiche dans ma bouche. Et parmi les sourds grognements sortis de ma gorge et amplifiés par le porte-voix que formait l'affiche enroulée, j'entendais Krapotz promettre que s'il était élu, il cesserait toute propagande en faveur d'un usage forcené des mauvais rêves et des cauchemars, mais qu'il n'encouragerait pas les rêves de richesse et de bonheur, tout en tolérant partiellement certains rêves de grandeur. Alors je sentais que ce n'était pas mes lèvres qui venaient de se desserrer, mais qu'avec rage, une véritable grande gueule venait de s'ouvrir en m'infligeant une douleur dans les mâchoires, une douleur que je ne pouvais pas ressentir, malgré mon intuition qu'il s'agissait d'une douleur dont la sensation avait été extirpée avant d'être infligée. Pendant que sur l'affiche, et en même temps penché sur l'affiche, maintenant déroulée, que je venais d'abandonner aux mains de Krapotz, nimbé d'une lumière qui semblait irradier depuis le fond du regard d'une féroce misérable mère, apparaissait le visage de Krapotz, figé avec une énorme bouche tordue dans l'obséquieuse timidité de celui qui veut paraître certain de perdre, tout en sachant qu'il va gagner. Et touchant trois fois l'affiche avec son front, en une posture de servile soumission, qui ne parvenait pas à cacher que c'était son orgueil qui l'inclinait à se prosterner ainsi plusieurs fois devant lui-même, Krapotz disait que si les électeurs faisaient le bon choix, ceux qui écoutaient la divine voix encore balbutiante en eux, mais qui ne pouvaient pas refuser de voter, et ceux qui ne tendaient l'oreille qu'aux habituelles rumeurs endiablées, mais qui était incapable de s'empêcher de voter. Lui, Krapotz, il n'oublierait pas son époque fabuleuse de prosélytisme cauchemardesque. Quand il n'hésitait pas à questionner un éventuel électeur à propos du degré de jouissance que celui-ci atteignait au paroxysme de son cauchemar habituel, en lui promettant que s'il persévérait dans son aspiration à descendre, nuit après nuit, plus courageusement et avec de plus en plus de persévérance, à l'intérieur de son propre cauchemar, il parviendrait à en jouir en plein jour et ne tarderait pas à en devenir le radieux propriétaire. Depuis le corridor reliant les chambres des animaux en voie de guérison finale, venait alors un de ces mélodieux trottinements qui n'avaient pu naître que dans le ventre de la mélodie. Et quand moi je voyais l'ânon blanc apparaître en trottinant, Krapotz avait déjà tendu ses mains en s'écriant que le petit veau blanc était enfin guéri. Et il disait que la guérison finale du veau était le plus beau présage en faveur de son élection. Que ce veau, qui marchait là devant nous, et dont on voyait seulement quatre pattes, car il en cachait des centaines d'autres, était la représentation du véritable miracle rationnel qui empêchait tout numéro gagnant d'une démentielle loterie d'inverser le sens de ses trous électorales qui, à cette heure, tournaient fatalement truqués et inexorablement purs pour le faire accéder, lui, Krapotz, dont personne ne devait oublier qu'il était l'ancien meilleur apprenti pleureur final, au sommet du poste où il était l'unique à pouvoir se tenir posté en équilibre dans la posture constamment déséquilibrée de grand suicideur. Faisant cliqueter entre ses doigts les clochettes de verre pendues au collier du veau, Krapotz disait qu'il n'aurait jamais réussi à aider le veau blanc à guérir si, sans en avoir conscience, dans le brûlant brouillard de sa fièvre, le veau n'avait pas vaincu la force malsaine qui cherchait à lui faire croire que bientôt surgirait d'une cavité d'un de ses fiévreux délires le vicieusement célèbre vétérinaire manipulateur exhibant sur sa blouse le faux poème proverbial affirmant que la science était le seau percé d'où fuyaient les erreurs plus fraîches que l'eau de source, et que ce promoteur d'une nouvelle philosophie de l'animal souffrant lui promettrait de le soigner jusqu'au jour où accourraient vers lui ceux qui voudraient éprouver l'extase que n'importe qui pouvait connaître en le confondant avec un âne. Et moi, je regrettais l'opulente époque passée où j'avais laissé passer l'occasion d'installer une fabrique souterraine au fond de laquelle chaque jour et sur des centaines de blouses aurait été imprimée la phrase de mon invention disant que la science transperçait le veau d'où ruisselaient des gouttes de sang plus stériles que les larmes d'une source. Et saisi par le souvenir qui, juste avant sa pendaison, traversait l'esprit du vétérinaire condamné à mort pour manipulation frauduleuse, je me souvenais que si j'avais réussi à aller jusqu'au bout de l'extrême aboutissement de ma recherche, ces blouses auraient été tenues comme des drapeaux jour et nuit devant chaque hôpital par des hommes boitant avec des jambes de femmes et par des femmes titubant sur des jambes d'hommes, pour exiger et attendre l'heure où il pourrait saluer tous les veaux qui ressortiraient des salles de transformation avec l'œil joyeux de leurs frères courant dans la verdoyance de l'imparfaite prairie. Dans un lointain du ciel montait une fumée de bruit, peut-être le début ou la fin d'une clameur humaine plus incertaine que le caverneux gosier commun d'où elle était issue, et moi je sentais que la densité de l'atmosphère augmentait et devenait de plus en plus dense pour peser de plus en plus sur mes épaules presque affaissées et sur la nuque de Krapotz encore plus affaissée. Et quand le petit veau blanc tournait sur lui-même et à chaque tour hochait la tête trois fois vers Krapotz et une fois vers moi. J'avais encore assez de clairvoyance pour discerner que le veau n'avait pas suivi la voie de la guérison finale afin de nous montrer comment résister au poids de tout ce qui est au-dessus de nous, mais encore au-dessous du ciel, semblait vouloir nous écraser. Et m'étant remis à quatre pattes, je me rapprochais par-dessous le menton du veau et me concentrais à observer le mouvement de balancier d'une horloge de chair pour essayer de savoir si le veau s'obstinait à conserver le même rythme de ses hochements de tête parce qu'il ne pouvait pas refuser d'incarner la vivante horloge qui voulait faire durer sa propre vie aussi longtemps que la vie d'un veau, ou parce qu'il espérait entendre de la bouche de Krapotz et de la mienne et de celle de quelques autres pourquoi ne cliquetaient plus les clochettes de verre pendues à son collier. Et voyant les doigts de Krapotz s'agiter les clochettes pour me prouver que ce n'était pas lui qui avait réussi à les rendre silencieuses, je me souvenais qu'au matin du jour le plus orageux de toute sa campagne électorale, l'ancien meilleur apprenti pleureur final Krapotz avait promis que si lui et personne d'autre était élu grand suicideur, il n'hésiterait pas à mettre en pratique ses facultés de détecter parmi certains êtres humains et aussi parmi certains de leurs confrères animaux domestiques les bienheureux ou les malheureux dont l'existence n'était plus qu'un unique cauchemar ou une succession de cauchemars usés, interrompus seulement par de nouveaux cauchemars. Et je me souvenais de ce matin, quand jeté par un accès de fièvre noire sur une des couchettes ambulantes de location, et presque déjà enterré dans la couverture prêtée en échange d'un sourire pour l'image de journal, je regardais Krapotz déambuler parmi les enfiévrés en leur jurant qu'à la seconde même suivant son élection victorieuse, il ordonnerait la réquisition du veau le moins irrémédiablement atteint parmi chaque lot de trois veaux malades et qu'il veillerait lui-même à ce que chaque veau réquisitionné soit porteur d'un collier de clochettes musicales pouvant à tout instant devenir des clochettes silencieuses entre lesquelles seraient dissimulées une ou plusieurs fioles libératrices. Pendant qu'il regardait derrière moi, tout en paraissant regarder à travers ce que je ressentais comme un double de mon corps, Krapotz commençait à essayer de rire, alors que j'étais sûr qu'il essayait d'arrêter le pleur qui s'écoulait en lui depuis ce douceâtre et triste matin, où l'esprit, comme trempé dans un sucre mortel, il avait été forcé de savoir qu'en un passé déjà si lointain, il deviendrait le seul apprenti pleureur final digne d'être élu grand suicideur. Et de ce pleur, que je ne pouvais voir couler dans toute sa plénitude sous le rire de Krapotz, qui peu à peu s'amincissait en un sourire de tristesse, émanait la suavité d'une musique dont je discernais les volutes de la toute première mélodie de maladie que j'avais entendue. Et ces volutes où s'entrelaçaient des filaments sonores d'une maladie et des filaments visibles de la matière première d'une mélodie, elles étaient égayées par les élans de la froide fanfare fatiguée qui les poussait à fuir et à trouver refuge dans les clochettes pendues au collier du veau, pour y tourbillonner jusqu'à ce que le cœur de chaque clochette s'éveille à sa propre musique. Après avoir écouté Krapotz qui me conseillait de regarder derrière moi avec l'attention de derrière, qui n'était pas l'attention de devant que j'utilisais en regardant devant moi, mais qui pouvait aussi empêcher de heurter un obstacle qui sans cesse se déplaçait vers l'avant ou vers l'arrière en changeant de forme, j'éprouvais d'abord une trouble gêne à reconnaître la subtile ressemblance entre le veau subitement disparu, mais encore visible dans mon souvenir, et la statue du veau qui se penchait au-dessus de moi. Et cette fausse gêne n'était que la crainte de perdre l'orgueil de celui qui ne s'agenouillait jamais devant rien, et elle disparaissait dès que je m'étais agenouillé sous la grosse langue toute grasse encore de plâtre humide et frais, mue par un harmonieux mécanisme dont le son évoquait un caillou tournant et creusant toujours le même creux d'un ruisseau. Et cette langue passait et repassait sur ma tête comme une truelle, sans pouvoir couvrir la voix de Krapotz, qui, entre un chantonnement et un roucoulement, parlant tout proche, comme s'il était couché sur ma tête entre mes cheveux et la langue de la statue du veau, disait qu'il préférait être élu suppléant suicideur aujourd'hui que grand suicideur demain. Car, en qualité de suppléant, il serait habilité à déclarer que la statue du veau sortie d'une chambre d'animaux en voie de guérison finale n'était pas une statue de veau guéri et qu'elle n'avait même pas été reconnue comme statue d'un veau malade. Avec la célérité d'un de ces messages, sachant utiliser certains orages pour faire passer des messages à une vitesse foudroyante, et dont la corporation s'était fondue dans la clandestinité exactement à l'époque où fut fondé le premier centre de formation chargé de former et de choisir, parmi des dizaines d'apprentis, le meilleur apprenti pleureur final, Krapotz avait dégagé 3 cartes d'identification apparemment officielles parmi les figurines attachées au collier sculpté de la statue du veau, sans s'inquiéter de montrer qu'il savait peut-être déjà qu'entre ces fines représentations figurées de clochettes et de fioles de verre moulées dans le plâtre, une main aussi alerte et habile que la sienne avait su dissimuler, collées l'une contre l'autre comme une seule pièce, 3 cartes d'identification qui brillaient maintenant dans sa main gauche avec l'intensité des 3 ampoules qui auraient eu le réflexe vivant. Oui, simplement, un pur réflexe de vie, peut-être même le réflexe purement réfléchissant d'une intense vie amoureuse, de se dévisser sans faire usage de leur étincelant pas de vis. Fasciné par une des 3 cartes d'identification, celle du milieu qui semblait à la fois la plus cruelle et la plus innocente et tremblotée de peur entre 2 doigts questionneurs de Krapotz, je lui disais que si... Voilà. Ben, parce que... Oui. Ça commence comme ça.